Radio Spirale. Aujourd'hui, une rencontre avec l'auteur franco-égyptien Robert Solé. La rencontre s'est tenue à la librairie Olivieri en mai 2011. Nous voudrions nous excuser de la piètre qualité de l'enregistrement due à des circonstances hors de notre contrôle.
Je suis très contente d'être ici avec vous ce soir. Je vais essayer de parler le moins possible pour laisser la parole à Monsieur Solé. Je vais quand même vous présenter un petit peu parce que je pense que vous êtes tous ici, vous devez quand même le connaître, mais je vais prendre quelques minutes pour vous présenter si ça vous dérange pas. Alors Robert Solé, vous êtes journaliste, vous êtes romancier aussi. Vous êtes né en Égypte en 1946. Je dis l'année par. J'ai dit l'année simplement pour souligner le fait que vous êtes né sous le règne de Farouk Ier en Égypte, donc quand l'Égypte était encore un royaume, quand même, c'est important. Et vous êtes arrivé en France en 1964, et donc à cette époque-là, c'était Nasser qui était au pouvoir, donc l'Égypte n'était plus un royaume, c'était devenu une république.
Exact.
Vous avez fait donc des études à l'école supérieure de journalisme de Lille et vous êtes entré au journal Le Monde en 1969. Et alors là, vous avez tout fait dans ce journal. Vous avez été rédacteur à la rubrique religieuse, correspondant à Rome, à Washington, chef du service société, rédacteur en chef et directeur adjoint de la rédaction. Et vous avez aussi dirigé Le Monde des livres. Et vous avez écrit votre dernier billet cette année, le 28 février dernier. Après, attendez, aidez-moi un petit peu, après 42 ans au Monde.
Ne me vieillissez pas. 41 ans.
Ah, d'accord. Mais c'est toute une vie que vous avez passée au Monde, au journal Le Monde.
C'est... Oui, c'est toute une vie, simplement, d'abord bonsoir à toutes et à tous. Oui, c'est toute une vie, simplement je ne sais pas si j'aurais tenu tout ce temps si je n'avais pas eu l'occasion d'être envoyé en poste à l'étranger. C'est-à-dire, je suis allé en Italie et aux États-Unis pendant 9 ans. Et puis, j'avais un autre métier à côté puisque j'ai écrit des livres. Si j'étais uniquement journaliste au siège du Monde, je ne pense pas que j'aurais tenu tout ce temps.
Alors justement, vous parlez du fait que vous êtes écrivain aussi. Est-ce que c'est le fait d'être journaliste qui vous a mené à écrire d'autres choses que des articles ?
Non, je pense que c'est le contraire. C'est l'envie d'être écrivain qui a fait que je suis devenu journaliste.
Ah, d'accord. Alors donc justement, Robert Solé, l'écrivain, c'est plusieurs essais, dont plusieurs sur l'Égypte. Je lance quelques titres comme ça, parmi d'autres. L'Égypte, Passion française, La pierre de Rosette, Voyage en Égypte, Le grand voyage de l'obélisque, Bonaparte à la conquête de l'Égypte et évidemment Le dictionnaire amoureux de l'Égypte. Alors vous parlez de vous comme quelqu'un de qui a la passion de la France, mais c'est plutôt la passion de l'Égypte que vous entretenez dans vos essais.
Poser des questions difficiles dès le début, là. Oui.
C'est juste votre parcours.
On va dire que la passion de la France a commencé. J'ai commencé par une passion de la France. C'est-à-dire que moi, j'ai été élevé en Égypte, dans un milieu qui était plutôt francophone. Et donc, la langue et la culture française m'ont toujours ont été pour moi une sorte d'appartenance, d'identité. Et donc, comme beaucoup de gens d'ailleurs en Égypte, j'ai toujours une passion pour cette langue et cette culture. Et ce n'est que plus tard, bien plus tard, 20, 25 ans, 20 ans plus tard, disons, que j'ai redécouvert le pays de mon enfance avec passion, et donc une passion s'est ajoutée à une autre. Voilà.
Tout à fait. Alors justement, ces passions qui se rajoutent les unes aux autres, ça donne aussi des romans. Il y en a 5. Le premier, c'est Le Tarbouche, en 1992. Et justement, alors, je faisais quelques recherches sur vous et vous parlez souvent d'une amnésie volontaire quand il s'agit de votre départ en France et ensuite ce retour graduel vers l'Égypte, donc le pays d'origine. Vous avez vécu donc une amnésie volontaire de 25 ans à peu près. Vous êtes arrivé en France en 1964, donc 25 ans plus tard, c'est 89.
On va dire 20 ans.
Ok. Donc c'est proche de la publication du Tarbouche, ça.
Oui, mais la publication du Tarbouche en 92 est précédée évidemment de quelques années de travail, voilà, avec l'Égypte, donc on va dire 20 ans.
Donc est-ce que c'est c'est une volonté de revenir à ce pays-là qui vous a amené à écrire le Tarbouche, ou c'est le contraire, ou c'est
pas du tout
ça ?
Non, c'est bizarre, c'est plus le besoin, le souhait, le désir d'écrire un roman depuis l'âge de 15 ans, qui a fini par se concrétiser par le Tarbouche, bien plus tard. Et c'est la littérature finalement qui me fait renouer avec l'Égypte. Je voulais écrire un roman depuis très longtemps, comme beaucoup de gens. D'ailleurs, beaucoup de gens ont envie d'écrire un roman. Et je tournais autour et je n'ai pu le faire que le jour où finalement, au lieu de situer ce roman dans une ville imaginaire, je l'ai situé en Égypte. Je me suis aperçu que c'était ça que je cherchais finalement. Et c'est ça qui a tout déclenché. Donc c'est le fait, c'est la littérature qui me conduit à l'Égypte et pas l'Égypte qui me conduit à la littérature.
Et donc il y a eu le Tarbouche où vous commencez cette longue exploration de la famille Batrakhani qu'on retrouve dans votre dernier roman Une soirée au Caire. Et au lieu de continuer avec cette famille-là dans les romans qui suivent le Tarbouche, vous revenez en arrière vers les ancêtres. Le sémaphore d'Alexandrie et la Mamelouka, c'est un peu ça.
Oui, parce que quand j'ai publié le Tarbouche, ce livre a eu du succès et beaucoup de gens m'ont dit « mais on attend la suite ». Et moi, je n'avais aucune envie d'écrire la suite, parce que je n'avais aucune envie d'aller au-delà des années 1960, c'est-à-dire l'exil au fond. Ça ne m'intéressait plus du tout. Et donc, mais comme je m'étais attaché à cette famille imaginaire finalement, je m'étais attaché au personnage, à la famille, j'ai voulu quand même faire une suite mais à l'envers. C'est-à-dire que j'ai pris cette famille et je l'ai imaginée un peu plus en arrière dans le temps. Et j'ai surmonté ensuite avec elle. Et ce n'est que tout récemment, donc, que j'ai été en mesure, que j'ai eu envie, ou que j'ai été capable de faire, en quelque sorte, la suite du Tarbouche. Parce que j'étais prêt à ce moment-là. Parce que depuis plus de 20 ans, maintenant, que j'ai renoué avec l'Égypte, j'étais prêt.
Là, vous étiez capable de parler des années après. Les années 60.
Et de parler d'aujourd'hui, finalement.
Ouais. Ouais. Il y a le quatrième roman. Alors lui, c'est très drôle parce que c'est le seul qui porte un nom arabe. Il s'appelle Mazeg, mais c'est le seul qui parle de la France.
Vous êtes une lectrice exceptionnelle, mais comme en plus vous ne vous êtes pas présentée, que je vous connais à peine... mais j'ai appris tout à l'heure que vous étiez une ancienne élève du lycée de Mahadi en Égypte,
ouais.
Et que vous êtes égyptienne au fond.
Ouais.
Et ça ne m'étonne pas parce que vous avez une connaissance des choses. Je dis ça parce que ce matin, vous m'avez interviewé pour une émission de radio.
Oui.
Et on s'est vu vite et je vous félicite parce que vous...
Merci, bon, c'est très
merci.
Gentil.
Et ça fait plaisir toujours à un écrivain de voir qu'il est lu avec autant d'attention. Alors j'ai déjà oublié votre question, c'était quoi ça?
C'était sur le
Mazeg. Oui, c'était sur Mazeg. Oui, Mazeg, c'est un roman un peu particulier puisqu'il se passe en France, Alors là, c'est un peu une fable, Mazag. Mazag, ça pourrait s'appeler, c'est un roman qui aurait pu s'appeler Les délices de la dette. Parce que le personnage de Mazag, qui fait évidemment toujours partie de la famille, comme dans tous mes romans, Basile Vatracagni, c'est un personnage qui arrive en France à l'âge de assez jeune, sans connaître personne, sans aucune relation et sans travail. Et un jour, je ne vais pas vous raconter tout le livre, mais simplement pour le situer, pour ceux qui ne connaissent pas, un jour, il tombe par hasard, comme ça dans la rue, à Paris donc, sur une sorte de portefeuille, et au lieu d'aller le porter à la police, parce que c'est un homme honnête, il l'ouvre, il trouve le nom, l'identité de la personne, et il se dit « je vais aller l'apporter au propriétaire », et il le rapporte au propriétaire, qui tombe dans ses bras en lui disant « c'est formidable, vous me sauvez la vie, etc., c'est très précieux, il y a des papiers très précieux et tout », et il veut lui donner de l'argent, et Basile refuse en disant « non, c'est tout, merci ». Et l'autre lui dit « si je peux vous aider, si je peux faire quelque chose pour vous ». Alors effectivement, comme Basile n'a pas de travail, quelques semaines ou quelques mois plus tard, va aller faire appel à ce monsieur qui va lui trouver du travail. Et il va commencer à se nouer, et Basile, et puis un jour le neveu de ce monsieur va avoir besoin de quelque chose, il va faire appel à Basile. Et Basile va être au centre de tout un réseau d'échanges gratuits, c'est-à-dire où l'argent n'entre pas en cause. Basile rend des services à des gens sans se faire payer. Il demande simplement qu'on dise merci. Mais quand il rend un service à quelqu'un, ce quelqu'un devient en quelque sorte son obligé. C'est-à-dire qu'il pourra faire appel à lui, plus tard, pour demander un service, jamais pour lui, mais toujours pour une tierce personne. Quelqu'un qui cherche un emploi, un logement, ceci, va demander à Basile, et Basile va faire appel dans son carnet d'adresses à X, Y, Z. Et cette nouvelle personne à qui il a rendu un service devient son obligé. Et Basile tisse une toile immense comme ça, un réseau absolument immense, et il devient l'un des hommes les plus puissants de Paris. Et c'est ça cette fable. Bon, on va pas raconter tout le livre parce que... Voilà.
Et pourquoi donc Mazag, le titre ?
Mais parce que Mazag, c'est un mot qui... Le Mazag, c'est à la fois l'humeur, on dit le Mazag de quelqu'un, et c'est à la fois le plaisir. J'ai du plaisir à être là, assis au soleil, c'est mon Mazag, à moi. C'est très personnel, c'est un Mazag. Et le Mazag de Basile, c'est justement de faire plaisir. C'est pas un acte gratuit puisqu'il y trouve un intérêt. Il n'y a pas d'acte gratuit. Basile trouve son intérêt en faisant plaisir aux gens. Et aussi en laissant aux gens le plaisir de lui faire plaisir. Parce qu'on a l'habitude, en général, quand quelqu'un vous fait un cadeau, c'est de rendre immédiatement. Et pour Basile, rendre, c'est synonyme de vomir. Il ne faut surtout pas rendre quand on vous fait un cadeau. Il faut accepter que la personne qui vous fait un cadeau, une invitation, se fasse plaisir à vous faire ce cadeau. Si vous rendez immédiatement, vous annulez le cadeau. Et donc Basile explique au narrateur, qui est son jeune cousin, qu'il ne faut pas apprendre seulement à donner, il faut apprendre à recevoir. Et c'est ça tout le Mazag de Basile.
D'accord. Et nous, notre Mazag, c'est avec ce dernier roman, Une soirée au Caire, que vous venez nous présenter aujourd'hui. On retrouve dans ce roman-là, je parlais de dans le sémaphore d'Alexandrie et la Mamelouka, on parlait des Toutas, on retrouve quelques Toutas, des références à des Toutas là-dedans, mais on retrouve surtout la famille Batrakani, donc on retrouvait dans le Tarbouch. Et donc vous disiez tout à l'heure que c'était comme une suite, est-ce que c'est une sorte de boucle terminée aussi?
Je sais pas si c'est la fin, mais en tout cas, c'est sûr que ça s'inscrit dans la suite. Et pour écrire ce roman, je me suis donc appuyé, je pars du Tarbouch. Et du coup, le Tarbouch devient pour moi le point de départ et comme un livre d'histoire. Et ça a été assez compliqué finalement d'écrire ce livre-là parce que j'étais tenu par le Tarbouch. J'étais tenu par toutes les âges des personnages, par exemple. Tout ce qui s'était passé avant. Et le Tarbouch est devenu pour moi la Bible. C'est-à-dire que je ne pouvais plus toucher à l'âge d'un personnage, je ne pouvais plus toucher à une histoire déjà passée puisqu'elle a été écrite. Et dans le Tarbouch, il y avait ce journal de Michel, qui est l'oncle du narrateur. Je me suis de nouveau penché... J'ai de nouveau ouvert ce journal et ce journal, c'est quelque chose, on ne peut pas changer une seule date, on ne peut pas changer un détail et tout. Donc je me suis appuyé sur le Tarbouch et je suis parti de là. C'est très bizarre un roman. En général, quand on écrit un roman, on peut se baser sur une documentation, sur des livres d'histoire. Mais là, c'est un autre roman qui devenait un livre d'histoire.
Et les 11 cahiers de Michel, ce qui n'est vraiment pas...
Les 11 cahiers de Michel, bien sûr, on peut pas y toucher. Ouais. Il y a 11, il y a pas 12.
Tout à fait. Alors, dans le Tarbouch, c'était Charles Batrakani qui était le narrateur. Et là, on retrouve encore une fois...
C'est le même.
C'est ça. C'est encore une fois Charles Batrakani. Et là, je vais poser la question sacrilège qu'aucun auteur n'aime. Mais Charles, mais je suis sûre qu'il y a plein de gens qui se la posent ici. Est-ce que c'est vous?
Tout le monde,
vous voyez, il y a tout le monde qui m'a répondu là.
Et alors, la réponse est évidemment non, bien sûr. Et tout le monde pense que s'il dit non, c'est que c'est lui.
C'est lui.
Non, parce que moi, j'écris des romans, en fait. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas de reproduire la réalité et de la romancer. C'est pas ça qui est intéressant quand on écrit un roman. Ce qui est intéressant, c'est de créer des personnages. Mais on les crée, évidemment, avec ce qu'on a et ce qu'on est. Il se trouve simplement que ce personnage, par beaucoup d'aspects, me ressemble, forcément, puisque lui aussi a connu ce parcours. Simplement, il y a des limites. Je veux pas entrer dans toutes les... Je suis pas dans la même situation que ce personnage. Ce personnage, il rentre sur la pointe des pieds, il est là, mal à l'aise et tout. Je ne suis pas là, si vous voulez. Je sais pas. En Égypte, j'ai une forme de reconnaissance, c'est différent. Il n'est pas écrivain, Charles. C'est pas la même chose. Donc, la réponse est non, c'est pas moi. Et évidemment, il y a beaucoup de moi dedans. Hein.
D'accord. J'espère que vous êtes satisfait par la réponse. Alors, une soirée au Caire. Donc, on va rentrer dans le roman vraiment. C'est donc le titre, comme ça l'indique, c'est cette soirée qu'organise Dina tous les mois, tous les premiers mardis du mois. C'est cette soirée qui regroupe donc une petite société cosmopolite, presque une tentative en fait de recréer l'Égypte un peu dans laquelle est né Charles, le narrateur. Mais c'est aussi durant cette soirée-là que va apparaître véritablement l'Égypte d'aujourd'hui aux yeux de Charles grâce à des personnages secondaires comme Amira par exemple, cette jeune universitaire. Donc c'est vraiment un voyage dans le temps que vous nous proposez, l'Égypte d'avant mais l'Égypte d'aujourd'hui aussi.
Oui, et pas seulement, il y a trois Égyptes dans ce roman finalement. Il y a l'Égypte d'aujourd'hui qui est dans cette soirée qui est incarnée par des gens d'aujourd'hui, alors Amir à l'universitaire, mais aussi le jeune homme d'affaires, mais aussi le chanteur de l'opéra, mais bon, c'est l'Égypte actuelle. Il y a l'Égypte d'hier, l'Égypte d'hier qui est soit à travers des personnages réels qui sont dans cette soirée, comme Dina, comme Lutfi Salama, comme c'est l'Égypte, un peu c'est la nostalgie, c'est tout ça, ou bien des personnages qui ne sont pas dans la soirée mais qui hantent le narrateur, les membres de la famille qui sont à Genève, qui sont ailleurs. Et puis il y a une troisième Égypte qui est présente dans cette soirée, c'est l'Égypte pharaonique, qui est incarnée, elle, par les égyptologues qui sont là et par cette mission archéologique à laquelle le narrateur a eu l'occasion, en tant qu'observateur, de participer quelques mois plus tôt. Donc il y a ces trois Égyptes-là. Et finalement, moi, je navigue, et tout le monde navigue, entre ces trois Égyptes en permanence. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a il y a l'Égypte fascinante, l'Égypte des pharaons, l'Égypte tout ça, qui fascine beaucoup de gens. Et pour beaucoup de gens, d'ailleurs, l'Égypte se réduit à ça. Il y a beaucoup de touristes qui vont en Égypte pour l'Égypte des pharaons. Bon. Il y a l'Égypte d'aujourd'hui, évidemment. Et puis, il y a cette Égypte qu'on porte, cette Égypte de la nostalgie, cette Égypte d'hier. On ne se console pas de sa disparition. Et Charles ne se console pas. Il est là, fixé, le regard dans le rétroviseur. Sauf que dans cette soirée, le rétroviseur va se casser. Il va se passer quelque chose.
Ouais. Voilà. J'aimerais simplement vous citer, en fait, dans le dictionnaire amoureux de l'Égypte, vous dites, je crois que c'est dans l'introduction, si je me trompe pas, « Aujourd'hui, je ne me lasse pas de découvrir la civilisation pharaonique, mais l'Égypte ne s'est pas arrêtée à Cléopâtre. Il m'est impossible de séparer l'Antiquité de toutes les époques qui ont suivi, chacune passionnante à sa manière et bien sûr du pays bien réel d'aujourd'hui. » C'est vraiment ce que vous faites dans ce roman-là.
Oui, c'est ça. Moi, je me suis beaucoup passionné pour le 19e siècle, par exemple. Je pense à un siècle que je connais assez bien en Égypte. Bon, j'ai beaucoup travaillé sur ce siècle, le début du 20e. Bon, oui, c'est un peu ça. Et moi, les pharaons, quand j'étais enfant, moi, les pharaons, ça n'existait pas. Moi, les pharaons, c'était les pyramides. On allait aux pyramides, on allait le dimanche de temps en temps, et c'était formidable. Et on allait dans le désert, et on montait. Moi, j'ai eu la chance de monter au sommet de la pyramide, ce qui est interdit maintenant. Mmh. Bon, mais qu'on était scout et on nous faisait monter au sommet de la pyramide.
Moi, j'ai pas eu cette chance.
Mais vous êtes jeune, vous êtes très jeune. On n'a plus le droit de monter sur la pyramide. Et donc, pour moi, l'Égypte pharaonique à l'époque, ça se limitait aux pyramides. En gros, c'était ça. J'ai jamais mis enfant ou adolescent les pieds au musée du Caire. C'était probablement pour les Occidentaux, les touristes. Et en ce sens, on était égyptien. C'est-à-dire que bon. Je suis allé une fois en Haute-Égypte, mais enfin, c'était pas tellement notre truc.
Oui, c'est ça.
Moi, les pharaons, je les ai découverts par la suite, à travers des amis égyptologues. Quand j'ai commencé à écrire des livres sur l'Égypte, j'ai beaucoup d'amis égyptologues maintenant. C'est avec eux, grâce à eux, à travers eux, que j'ai découvert ce monde fascinant, effectivement. Et ce qui m'amène d'ailleurs à... Je vais faire de la publicité un peu, là.
Oui, allez-y.
Mais on est chez un libraire, après tout. je vais publier un livre dans quelques semaines qui s'appelle « La vie éternelle de Ramsès II ». Bon, c'est sur la vie posthume de Ramsès II. C'est un scoop. Personne n'a encore exploré cette chose-là. Les égyptologues n'osent pas. Hein. Mais moi, je suis pas égyptologue. Donc, voilà. Ça m'a amené à m'intéresser même à Ramsès II.
Et c'est très drôle ce que vous dites parce que dans le roman, on retrouve aussi les Égyptiens dans le roman Dina, par exemple, ne s'intéressent pas du tout à toutes ces
fouilles archéologiques. Mais non, elle trouve qu'on lui montre des photos de la mission archéologique. Alors elle dit, ils sont sympathiques ces jeunes gens, ils vont très loin là-bas dans le désert, ils font... Moi, je pensais qu'ils avaient découvert un temple, une pyramide. Qu'est-ce que c'est que ces quelques pierres?
Quelques murs de poussière.
Il y a que des Européens pour s'intéresser à ces choses-là. Elle est... bon, voilà.
Ouais, c'est un épisode très drôle, d'ailleurs. Mais justement, Dina, je vais vous laisser lire un petit passage parce que j'ai envie qu'on la connaisse un petit peu plus.
C'est ce qui est là, hein?
Ouais.
Tout ça?
Ouais.
Oh là! Bon. À cette époque, Dina m'obsédait de plus en plus. Je l'imaginais en train de lire sur sa terrasse, sur une chaise longue, à moitié nue. J'avais appris qu'elle jouait au squash le mardi et le jeudi à 13h. C'était le moment où je rentrais en métro à la maison pour déjeuner avant de regagner le collège. Ces jours-là, je pris l'habitude de descendre à la station du club et poster discrètement de guetter sa venue. Elle arrivait légère, son sac de sport en bandoulière. Mon cœur battait à tout rompre. Je la dévorais des yeux jusqu'à son entrée au club. Ces quelques minutes, attendues depuis la veille, valaient des années. Laisser passer un ou deux métros me mettait en retard ou m'empêchait même de déjeuner à la maison. J'inventais divers prétextes et finis par annoncer à ma mère que je préférais manger près du collège avec des camarades. Un jeudi, Dina ne vint pas. Le mardi suivant, non plus. J'appris qu'elle avait changé ses horaires de squash. Elle jouait désormais à 10h du matin. Il ne me restait plus qu'à guetter ses apparitions à la nouvelle piscine olympique du club. Mais c'était plus rare et nous n'étions plus seuls. Elle n'a jamais rien su de nos brefs, mais si intenses, moments passés ensemble.
Alors voilà, c'est Dina. Dina qui représentait quand même un fantasme très fort dans la vie de Charles.
C'était pas un fantasme, c'était une personne très réelle qui... Il était amoureux de Dina, comme tous les membres de la famille d'ailleurs. Tous les hommes probablement de la famille.
Ok, d'accord. Mais en fait, on retrouve Dina à travers les âges de Charles aussi. Et il retourne au Caire en fait pour lui annoncer une mauvaise nouvelle. Et ils ont vraiment une relation très spéciale pendant le roman.
Oui, lui, il a des émotions rétrospectives. C'est-à-dire qu'il vit avec elle seule dans cette maison. Alors, elle n'est plus toute jeune. Et lui, les années ont passé aussi. Il a des émotions rétrospectives. Et il y a entre eux, en effet, une relation assez... assez intéressante, c'est pas difficile à définir.
Mais qui change avec les âges aussi, parce que je maintiens, il fantasmait sur elle quand il était adolescent, mais là, plus lui vieillit, plus, et elle aussi, plus la relation change, ça devient une relation amicale,
elle
presque protectrice.
Elle est affectueuse, oui, c'est sûr qu'elle a évolué, qu'elle est affectueuse, et en même temps, elle le séduit toujours, et elle a de l'affection pour lui, et on comprendra à la fin du roman pourquoi. Enfin, elle a elle-même, elle voit à travers lui quelqu'un d'autre. Donc, il y a cette relation qui a évolué.
J'ai envie de parler un petit peu plus de Charles, parce que je venais de parler justement des différents âges de Charles, et son retour comme ça au Caire provoque chez lui un questionnement, des constatations sur sa propre identité. Et il y a un passage, je sais pas, est-ce que vous avez le courage de lire, il est un petit peu long, mais il
Encore
est quand même très bien.
Ah.
Oui.
Ah, il est question de Yassa. Yassa, c'est donc l'ancien chauffeur copte de la famille, qui est devenu maintenant, qui travaille au service de la mission archéologique, au service des Français. Donc c'est ce passage sur Yassa. Yassa doit habiter dans l'un de ces vieux immeubles assez bas, couverts de suie. Là, on est à Fagala, dans le quartier de Fagala. J'ai du mal à imaginer l'Égypte sans lui. Les Français le considèrent comme un intermédiaire. Pour moi, il est un trait d'union. Grâce à lui, je peux relier un peu mieux l'enfant d'hier et le Janus que je suis devenu. Je dois lui apparaître bien flou, ni vraiment d'ici, ni tout à fait de là-bas. Finalement, Habibi, m'a-t-il dit tout à l'heure, tu as vécu beaucoup plus de temps en Europe qu'en Égypte. C'est vrai, à mesure que les années passent, la balance penche de plus en plus vers le couchant. Mais certains éblouissements de l'enfance comptent double ou triple. Rien n'égalera l'euphorie des petits matins dans la palmeraie de Marsamatour, la course jusqu'à la plage, le premier plongeon dans l'eau turquoise. Quelque chose s'est brisé quand j'ai quitté ce pays. Les sensations ont laissé place à la réflexion. Paris est devenu pour moi le centre du monde. Alors que mon centre de gravité physique, climatique, se trouve plus au sud, en Méditerranée. Si je reviens ici, n'est-ce pas pour tenter de renouer avec une certaine ferveur les départs en vacances, le parfum des algues, les murmures des branches de palmiers, une silhouette guettée et entrevue. Aujourd'hui, avec l'Égypte, je suis comme un adolescent devant une femme attirante, mystérieuse et qui fait peur. « Tu as retrouvé la mère patrie, » m'a dit Jocelyn. « La mère, oui. La douceur du climat, la gentillesse et l'humour des gens, mais le père est toujours aussi inquiétant avec ses uniformes, ses censures et ses prisons où l'on torture. Incarné par un douanier soupçonneux, il surveille l'entrée et la sortie. Quel passeport présenter en premier ? L'Égyptien ou le Français ? Dans les deux cas, il y aura défiance et sourde réprobation. Les Occidentaux qui passent le contrôle d'un cœur léger en baragouinant deux mots d'arabe ne connaissent pas leur bonheur. Tout le drame du binational ressurgit à la frontière devant un guichet. Le douanier pose des questions simples, auxquelles il faut répondre par oui ou par non, alors qu'elles exigeraient 300 pages d'explications complétées par des notes et des annexes.
Je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sont reconnus dans ce passage-là. Il y a plein de choses dans cet extrait. Il y a donc cette ambivalence très très profonde de Charles. Il se qualifie comme un Janus, donc ce dieu romain à deux têtes qui est tourné à la fois vers le passé et le futur. C'est très fort comme comparaison.
Oui, et Janus aussi, pas seulement passé futur, mais aussi qui a un pied de chaque côté, hein, dans deux mondes, assis entre deux chaises. Son grand-père disait « Nous sommes assis entre deux chaises, c'est pas très confortable, mais nos fesses sont faites ainsi.
» Et il y a ce passage très très drôle, j'ai vu plusieurs personnes sourire, le passage aux douanes. Qui est tout un casse-tête en fait pour quelqu'un qui a la double nationalité, une double nationalité. Et il y a aussi un autre passage dans ce livre-là où le père André traverse les douanes et le douanier lui demande André, donc je précise, il est jésuite, c'est ça. Et il fait un passage aux douanes et le douanier lui demande est-ce que vous êtes égyptien, l'air très sceptique. Et le père André lui dit « Non, je suis japonais. »
Alors là, c'est une chose que je n'ai pas inventée, c'est une histoire vraie.
Ah bon, en plus
C'est une histoire vraie qui m'a été racontée par un intéressé, par un religieux égyptien, furieux, effectivement, de passer à la douane et le douanier lui dit « Est-ce que vous êtes égyptien ?» Et il avait toujours vécu en Égypte, il était égyptien, et il lui a répondu non, japonais. Voilà. Donc je me suis inspiré d'une histoire vraie, là, cette fois.
Ouais. On a commencé cet extrait-là, pardon, avec Yassa, les Français le considèrent comme un intermédiaire, Charles le considère comme un trait d'union. C'est quoi la différence?
Mais la différence, c'est que ce milieu dont Charles fait partie, sa famille, ses familles, ce sont traditionnellement et depuis, je dirais, des siècles, des intermédiaires. Ce sont des chrétiens d'Orient, nomades, mobiles, polyglottes, qui servait de lien souvent entre les Occidentaux, les autochtones. On faisait appel à eux parce qu'ils avaient justement cette souplesse, cette connaissance des langues et tout. Et ça, c'est une allusion à la fin du Tarbouche. À la fin du Tarbouche, il y a Michel qui fait un peu le bilan. Il dit, on est parti. Pourquoi on est parti? Et alors, il fait un peu le bilan comme ça et il dit, au fond, nous n'avons été que des intermédiaires. N'avons pas pu ou n'avons pas su être des traits d'union. Et Yass, à lui, c'est un trait d'union. Vraiment. C'est un copte d'Égypte qui fait vraiment le trait d'union.
C'est un personnage que vous aimez beaucoup, Yass, je crois.
Oui, j'aime beaucoup Yass. Il représente pour moi l'Égypte éternelle, cette Égypte du, à la fois de la douceur, du bon sens, une Égypte industrieuse, contrairement à ce qu'on raconte sur les Égyptiens ne font rien, sont paresseux, etc. C'est un type qui travaille, qui a toujours travaillé. Et puis j'aime bien quand même Yassa, comment il est entré dans la famille. Moi, c'est une histoire que j'aime bien aussi. Comment il, quand on l'a embauché comme chauffeur, on l'embauche, il cherche du travail. Alors il y a quelqu'un qui l'introduit dans la famille. On le présente à Georges B. Et Georges B. lui dit, ah ben ça tombe bien, mon chauffeur a des problèmes de vue. Je t'embauche comme chauffeur, dit-il à ce jeune homme qui vient se présenter. L'autre lui dit, Abbé, je ne sais pas conduire. Et Georges B. lui dit, quelle importance, personne ne savait conduire dans le ventre de sa mère. Tout s'apprend, tu apprendras à conduire. Et il devient le chauffeur de la famille. Voilà.
Alors, on va continuer sur cette note légère, parce que votre personnage, Charles, il observe beaucoup, il se promène beaucoup dans le Caire. On était à Faghella il y a quelques pages. Et il y a comme ça une recherche très sensuelle dans votre roman. On voyage beaucoup avec les sens. Et il y a cet épisode que vous devez lire, en fait, parce qu'il faut qu'on entende ça, qui parle de la molochée.
Ah oui. Alors, tout le monde ne sait peut-être pas dans la salle ce qu'est la molochée, mais bon, vous allez savoir.
Je sais même pas si ça se... Est-ce que ça se traduit en français?
Non. Bon.
La corette potagère.
Oui, monsieur... C'est vrai. Alors, nous sommes au déjeuner familial, une évocation du déjeuner familial d'avant, des déjeuners dominicaux. Le rituel de la molochée a commencé. En attendant les soupières, chacun formait un monticule de riz dans son assiette creuse. Il y faisait un trou au sommet pour y déposer une ou deux cuillères d'oignons haché au vinaigre. Ensuite, nos routes se séparaient. Les enfants de Lola versaient d'abord la soupe fumante au parfum d'ail et de coriandre. Nous, les Yared, nous n'aurions à aucun prix accueilli la molochéia sans avoir garni au préalable notre assiette des autres ingrédients. Morceaux de viande ou de poulet et lamelles de pain sec grillé. C'était deux écoles irréconciliables.
Alors voilà. Donc le rituel de la molochée, c'est vraiment l'exemple type des rassemblements familiaux du samedi ou du vendredi plutôt en Égypte. D'ailleurs, je vous en veux beaucoup de ne pas avoir créé une entrée indépendante pour la molochée dans votre dictionnaire amoureux de l'Égypte. Elle est dans gastronomie, mais elle n'est pas toute seule.
C'est que la gastronomie égyptienne est assez réduite, il faut bien dire. J'aime beaucoup le foule, j'aime beaucoup certaines choses, mais il fallait nourrir, si je puis dire, la gastronomie et j'ai mis la molochée dedans.
Oui, c'est vrai que vous parlez. En plus, dans ce roman-là, vous parlez vraiment beaucoup de nourriture, le foule, la bamia, il y a de la omaali aussi, je crois.
Oui, oui, oui. Oui, parce que c'est un dîner, c'est une soirée, et dans cette soirée, évidemment, la nourriture occupe une place considérable. Et elle occupe une place considérable dans les souvenirs du narrateur. Parce que la nourriture, c'est une des choses que les exilés emportent avec eux. C'est souvent ce qui reste de plus, ce qui relie les gens. Et je pense qu'à Montréal, c'est vraiment le cas, hein, pour beaucoup de gens.
J'aimerais revenir à la langue que vous utilisez dans une soirée au Caire, parce que il y a plusieurs mots en arabe, donc évidemment la nourriture, mais ça, s'il y en a plusieurs qui sont pas traduisibles. Mais vous utilisez des mots comme chawish, mitsana, khawega, nokta. Et je me disais, il y a quand même certains mots qui sont qu'on peut traduire, mais est-ce qu'ils auraient perdu de la saveur?
C'est-à-dire que moi, en tout cas dans mes romans, je ne fais jamais de notes. Il n'y a pas de notes, il n'y a pas une note pour expliquer le sens d'un mot. Parce que je trouve qu'une note dans mes romans, ça n'irait pas du tout. Donc je m'arrange toujours pour traduire à travers les dialogues le sens d'un mot. Il y a par exemple un dialogue entre une jeune Française qui est là et Yassa à propos du mot Marlèche.
Oui.
Je sais pas, je dis un peu de mémoire comme ça. La fille dit, mais c'est quoi Marlèche? Elle vient d'arriver au Caire, elle est arrivée la veille, et à longueur, depuis 24 heures, elle entend tout le monde dire Marlèche, Marlèche, Marlèche. Elle dit, Marlèche, c'est quoi Marlèche? Et alors, Yassa lui dit, Marlèche, ça veut dire, c'est pas grave, c'est pas important. Mais elle vient de s'indigner. Il y a un Français qui est là, qui a une attitude insupportable. Elle lui dit, mais enfin, c'est quand même, il se comporte comme un malotru. Et vous dites, Malèche, Malèche, il se comporte comme un malotru. Et puis elle s'excuse, elle dit, excusez-moi, j'ai été un peu vive. Alors, Yassa lui dit, Marlèche. C'est vraiment... et voilà. Donc, c'est à travers un dialogue qu'on explique le sens d'un mot.
Il y a aussi Yassa, d'ailleurs, qui parle beaucoup en proverbe. J'aime beaucoup les proverbes qu'il utilise, Yomaasal et Yombasal, et chacun dort sur le côté qui lui sied, ou je sais plus trop comment vous l'aviez traduit, mais ça aussi, c'est un proverbe.
Oui, il y a aussi le vinaigre gratuit est plus doux que le miel. Hein, c'est important aussi.
Je pense qu'on le sait tous ici, mais l'Égypte vient de vivre une période révolutionnaire. On vous a beaucoup consulté sur ça. Vous avez donné beaucoup d'entrevues sur ce qui se passait en Égypte, sur Moubarak qui est parti et avant et tout ça. Et je me demandais qu'est-ce que ça fait de devenir une référence comme ça?
Oh là là, référence, non, certainement pas. Moi, je suis pas une référence et moi, je ne suis pas un spécialiste. Je ne suis pas un spécialiste de quelque chose, d'un domaine en Égypte. Il y a des spécialistes. Il y a des politologues, il y a des sociologues, il y a des économistes, il y a des égyptologues, il y a tout ce qu'on veut, qui sont spécialisés, qu'on peut consulter sur un point particulier. Moi, je suis un généraliste, je suis un romancier, je suis quelqu'un qui aborde l'Égypte sous tous les angles. Et je pense que c'est plus comme romancier qu'autre chose qu'on m'a consulté, qu'on m'a consulté avec d'autres. D'ailleurs, je suis pas le seul. Il se trouve simplement que les médias, quand un événement comme ça survient, cherchent des gens pour commenter l'actualité. Et moi, je me suis pris au jeu, ça m'a beaucoup intéressé. Par exemple, il y avait je me rappelle une interview de celui qu'on venait de nommer vice-président, Omar Sliman. Et sur la chaîne France 24, je me suis retrouvé pendant une heure et demie en direct à commenter ce qu'il disait. Ça m'a beaucoup intéressé. Alors, à quel titre je le commentais, j'en sais rien. Je commentais avec, mais je suis pas une référence du tout.
Mais on vous demande d'intervenir comme un Égyptien d'origine, en fait.
Oui, mais c'est que moi j'ai plusieurs casquettes. Alors je sais plus jamais pourquoi on m'invite. On m'invite comme journaliste, comme romancier, comme je ne sais pas quoi. C'est tout. Je suis très content, en tout cas, d'être sollicité.
Et quand il arrive des choses joyeuses comme ça, parce qu'on va le dire, c'est quand même joyeux, ce changement-là.
En tout cas, c'est excitant et c'était très intéressant de suivre ça et c'était passionnant de voir, et ça continue à être passionnant parce qu'il se passe tous les jours quelque chose en Égypte en ce moment, tous les jours, chaque jour, il se passe quelque chose de nouveau et c'est très intéressant de vivre comme ça l'histoire immédiate en direct. Et quand on est journaliste, en plus, comme c'est mon cas.
Est-ce que vous vous sentez plus égyptien?
Plus égyptien quoi? depuis qu'il y a ces événements.
Ouais.
Plus égyptien, en tout cas, plus concerné par l'Égypte, oui, certainement, oui, et plus égyptien aussi, sans doute, oui, 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 bien sûr. Il y a dans ce roman, il y a Charles qui dit à un moment, mais c'est Charles, hein, c'est pas moi, enfin bon. Charles dit, je me sens égyptien dans deux circonstances. Quand je suis sensible à l'humour égyptien, une noctin, comme ça, je ris, je pleure de rire devant un film, une noctin, un truc. Et puis quand il y a des choses qui me choquent, que je déteste en Égypte, il y a des choses que je déteste en Égypte. Dans mon dictionnaire amoureux, il y a des choses que je déteste dans ce pays. Mais c'est à ce moment-là que je suis touché, que je me sens lié à ce pays. Les événements dont vous parlez, eux, ce sont... Alors, il n'y a pas que ça, heureusement. Il y a aussi des événements positifs, des choses très belles en Égypte, et avant ces événements-là, d'ailleurs. Et chaque fois que j'allais en Égypte, il y avait plein de choses que je détestais, et il y avait plein de choses qui me consolaient. Il y avait et ces événements-là, évidemment, par leur côté positif, dans ce qu'ils ont, disons, de positif, évidemment, me donne un sentiment à ce moment-là de communion avec les gens très fort.
Donc vous faites confiance en fait au peuple égyptien et vous avez de l'espoir que la condition va s'améliorer.
Ben, j'ai retrouvé un personnage d'Amira là mm-hmm. dont nous parlions, je l'ai retrouvé dans les événements. Elle est là, elle annonçait ça d'une certaine façon. Oui, votre question c'était, pardon ?
Ah, c'était ça,
oui,
vous répondez.
Oui. Non.
Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans le public. Ok, on va commencer par monsieur là-bas. Je ne sais pas s'il y a des micros quelque part. Ah, il y a un micro juste ici. Faudrait.
Bonjour. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de la vie post, la vie après la mort de Ramsès. Et moi, j'avais envie de savoir, dans votre roman, s'il y avait un petit peu un personnage qui représentait justement la vie après tout ce qui s'est passé maintenant en Égypte, ce serait lequel personnage ?
Vous parlez d'une soirée au Caire.
Oui, exactement. Hein?
S'il y avait un personnage qui
ressemblait à l'après tout ce qui s'est passé.
Ah oui. Amira. Mais je pense en effet que Amira, il y a un passage dans, il y a un passage. Oui, s'il y a un en fait, tous les personnages, on peut les imaginer ensuite, on peut les imaginer devant une situation comme ça, c'est amusant d'ailleurs. Il y a une universitaire au Caire qui fait ce travail en ce moment, elle m'a écrit, bon, c'est amusant. C'est-à-dire d'imaginer un peu les personnages, comment ils réagiraient dans ces événements. Mais pour le, alors, s'il y en a un, en tout cas, que je vois bien, c'est elle, c'est Amira, parce qu'elle dit ceci. Hier, poursuit Amira, deux de mes étudiantes ont voulu assister au cours, elle est prof d'université, voilée de la tête aux pieds. Il ne nous manquait plus que ça. Ce pays est en train d'étouffer entre des fous furieux qui mettent de la religion partout et un pouvoir épuisé et largement corrompu. Nous avons besoin d'air. Nous avons besoin de justice sociale et de démocratie. Et je ne parle même pas de nos prisons qui sont une honte. Je pense qu'elle exprime bien ce qu'on a pu entendre, si vous voulez, à sa façon. Donc voilà, s'il y avait un personnage que je devais choisir, ce serait plutôt elle. On va pas entrer dans tous les détails des autres, mais voilà pour répondre à votre question.
Monsieur avait une question ici, en deuxième. Oui, il faut que vous parliez
voilà,
dans le micro.
Il y aura pas de question si tout le monde est obligé de venir à la tribune. Hein.
Moi, ma question, c'est concernant le pharaon renversé qu'on lisait ce matin dans les journaux, une entrevue qu'ils ont eue avec vous. Ça parle un peu, en fait, l'entrevue parle de la révolution, de ce qui se passe en Égypte. Je voulais avoir votre avis personnel, ce que vous pensez qui va arriver avec les chrétiens d'Égypte, comment les choses vont se développer, et surtout nous parler un peu du pharaon d'Égypte ou le pharaon renversé, c'est quoi ce livre que vous préparez présentement?
Merci, oui. En effet, pour la première fois de ma vie, je vais publier deux livres en même temps. Donc celui de Ramsès II dont je vous ai parlé et l'autre que vous avez cité qui s'appelle Le pharaon renversé, 18 jours qui ont changé l'Égypte. C'est le récit simplement des 18 jours qui ont abouti à la chute de Moubarak. Et votre question porte en fait sur surtout les chrétiens. Alors pendant ces événements, on a tous été frappés par le fait que d'abord, ils avaient été précédés par des choses très graves, ces événements. Et notamment un attentat contre une église à Alexandrie qui a fait de nombreuses victimes, qui était une chose inédite par son ampleur, et qui a provoqué d'ailleurs dans la communauté copte d'Égypte des réactions très violentes et tout à fait compréhensibles. On a été frappé pendant les événements, pendant ces 18 jours, au contraire, de l'absence totale d'incidents interconfessionnels. Il n'y a pas eu d'incidents interconfessionnels. Et après ces événements, après la chute de Moubarak, on a assisté de nouveau, d'abord on a vu sortir du bois des fous furieux, qui sont les salafistes, qui ont commis des choses abominables, et on a assisté de nouveau à des incidents des graves interconfessionnels dont on pense, on a tout lieu de penser, qui sont fomentés, qui sont provoqués, soit par ces fous furieux, soit par d'autres forces qui ont intérêt à provoquer un certain chaos et un certain affrontement entre les communautés. Donc c'est vrai que les chrétiens d'Égypte sont inquiets, ont raisons de l'être, et en même temps, beaucoup d'entre eux ont vécu au contraire des moments extrêmement forts qui rappellent dans la mémoire égyptienne ce qui s'était passé en 1919. Alors l'année 1919 est très présente dans ce roman, hein, vous verrez, elle est très présente. Et 1919, c'est l'année où des Égyptiens descendent dans la rue pour demander aux Anglais l'indépendance du pays, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale. Et ce mouvement de 1919 est intéressant et touchant par son côté d'unité nationale. C'est-à-dire qu'on voit descendre dans la rue des hommes et des femmes, et c'est pas rien pour l'année 1919 de voir des femmes de la haute société voilée qui sont là parfois dans leur calèche, mais qui sont là dans la rue. Il y a des hommes et des femmes, il y a des riches et des pauvres, et il y a des chrétiens et des musulmans. Et ça restera dans la mémoire égyptienne comme un grand moment d'unité nationale. Et donc les Coptes, les chrétiens d'Égypte, ont vécu ces événements aussi, et nous on les a vécus de loin, à distance, comme un grand moment de tolérance, de convivialité, d'union nationale. Alors évidemment, ce qui arrive après fait ressurgir des inquiétudes, parce que ce n'est pas joué, évidemment, parce qu'il y a encore, il y a beaucoup de gens qui dont le but, c'est d'islamiser la société. Dont le slogan, c'est le Coran est la solution. On dit le Coran, c'est la solution de rien du tout quand on gouverne un pays. Le Coran, c'est un livre respectable, saint, un livre religieux. Il n'est pas fait. C'est pas un programme politique, économique. Donc, il y a une inquiétude réelle des Coptes d'Égypte qui se sentent à juste titre discriminés. Il y a heureusement des musulmans éclairés et nombreux qui dénoncent maintenant ces discriminations. Et le sujet est devenu un sujet de débat public. Et ça, c'est très positif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en débat publiquement. On débat de cette constitution qui est complètement contradictoire, puisque dans un des articles, elle dit que tous les citoyens sont égaux, quelle que soit leur religion. Et d'un autre côté, elle dit l'Égypte est un État islamique et ses lois se basent essentiellement sur la charia. Ça n'a pas de sens. Donc il va bien falloir réviser cette constitution. Simplement, ça peut pas se faire du jour au lendemain, et dans le climat actuel, c'est pas possible. Donc, on en est là. On en est là avec des discriminations, par exemple, pour la construction d'églises. Les Coptes ont du mal à construire des églises, à obtenir des permis pour construire des églises, alors que les mosquées poussent comme des champignons en Égypte. Les Coptes ont du mal à accéder à des fonctions de gouverneur, de président d'université, de général dans l'armée. Il n'y a aucune raison. Ce n'est pas, les Coptes ne sont pas un produit d'importation. Ce n'est pas le résultat d'un quelconque colonialisme. Les Coptes, c'est des Égyptiens de souche qui ont évidemment toute leur place dans la société égyptienne. Alors heureusement, il y a beaucoup de musulmans qui en sont convaincus et qui se battent pour ça. Et qui se battent pour ça, et ça va être une bataille. Ça va être une bataille pour laquelle il faudra soutenir les gens qui se battent pour ça et pour d'autres choses, pour la démocratie en Égypte. Je pense qu'il va falloir les soutenir.
Il y avait une question ici d'abord.
Les gens qui voudront pas se déplacer.
Sans avoir de boule de cristal, je sais, vous devinez la question que je vais vous poser. Comment imaginez-vous, à moyen, à court terme, c'est très difficile d'imaginer quoi que ce soit, mais à moyen et long terme, l'avenir de ce mouvement égyptien, peut-être des autres mouvements du bassin méditerranéen, mais surtout du mouvement égyptien, quand on fait des rêves fondés quand même sur une expérience et sur une intelligence qui vous permet d'avoir quand même votre petite boule avec vous.
Oui, je vois bien, mais je crois que personne ne peut vraiment répondre à cette question pour vous dire ce qui va se passer. Simplement, on peut analyser à partir de ce qu'on sait, de ce qui existe, on peut essayer de réfléchir, simplement. Moi, il y a l'écrivain Alaa El Aswany qui m'a dit une chose qui me paraît assez juste, que j'ai rencontré au Caire il y a 2 semaines. Il m'a dit, au fond, ce pays maintenant est divisé en deux. Il y a ceux qui ont fait cette révolution, ce mouvement, et ceux-là, ils changeront pas. On réussira pas à les faire revenir en arrière. Il y a quelque chose d'irréversible qui s'est passé. Les gens ont découvert la liberté, la prise de parole, et on les fera pas changer. Et puis il y a l'autre Égypte, qui n'a pas fait ce travail-là, et sur laquelle travaillent, si je puis dire, des forces de contre-révolution qui essayent par exemple, on l'a bien vu au moment du référendum. Il y a eu un référendum constitutionnel en Égypte. Les militaires ont voulu faire un référendum très vite. C'est des militaires un peu particuliers en Égypte. En général, les militaires, quand ils viennent, ils sont au pouvoir, ils veulent pas le lâcher. Là, ces militaires-là, ils donnent l'impression d'être pressés de rendre le pouvoir, de donner le pouvoir aux civils. Mais parfois trop pressés, de façon ambiguë. Toujours est-il qu'ils ont voulu faire un référendum constitutionnel très vite. Un référendum non pas pour changer la constitution, mais pour l'amender. Et l'amender uniquement sur les points que Moubarak lui-même s'était engagé à amender, c'est-à-dire en gros des amendements constitutionnels qui permettent de faire une élection libre, présidentielle normale, libre. Bon. Beaucoup d'opposants laïcs, entre guillemets, hein, parce que quand on dit laïque en Égypte, bon, laïque entre guillemets, tous les gens qui avaient lancé ce mouvement ont dit on ne veut pas. On ne veut pas, on veut un changement complet. Il faut voter non. Et c'est le oui qui l'a emporté à plus de 75%. Mais si le oui l'a emporté, il l'a emporté pour des raisons diverses. Il y a eu une raison d'abord économique. Les gens ont peur. Il y a des gens qui ont perdu leur travail dans cette affaire. Le tourisme s'est effondré du jour au lendemain. Il y a des gens qui ont perdu leur travail, qui sont inquiets, qui ont voté oui. Mais il y a aussi beaucoup de gens qu'on a fait voter oui. Et là, les frères musulmans ont joué un rôle décevant. Décevant parce qu'on attendait mieux d'eux. Persuadant des gens que s'ils votaient non, les femmes ne seraient plus voilées, par exemple. On a répandu cette idée stupide dans les campagnes. Bon. Donc voilà, vous posez la question sur qu'est-ce qui va se passer. Moi, je vous dis qu'il y a des choses irréversibles, de mon point de vue. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne changeront pas. Et on le voit, d'ailleurs, toutes ces dernières semaines. Les gens ont appris le chemin de la place, et ils descendent dans la rue. Et ils sont en train maintenant de s'opposer à l'armée elle-même. Et il faut être très courageux pour faire ce qu'ils font. Donc il y a un mur de la peur qui s'est brisé et qui fait que les gens, maintenant, on les fera pas revenir en arrière. Mais tout ça va conduire à quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce qu'on attend maintenant de savoir ce qui va se passer dans les urnes. Il va y avoir des élections législatives à l'automne et une élection présidentielle à la fin de l'année, si le calendrier ne change pas d'ici là. Dans les élections législatives, tout le monde va surveiller évidemment le score des frères musulmans, parce que c'est la seule force organisée de l'opposition. Et l'opposition, elle essaye de s'organiser. Il y a une trentaine de partis politiques qui sont en voie de création aujourd'hui en Égypte. Une trentaine. Seulement, il faut pas être 30 pour gagner des élections. Il vaut mieux être un. Il vaut mieux avoir un ou deux partis démocrates réels. Et puis, il y a l'ancien parti gouvernemental, le PND, qui évidemment est toujours là avec ses moyens, sa force, etc. Donc, on ne sait pas très bien ce qui va se passer aux élections législatives. Et ensuite, il y a une élection présidentielle. L'élection présidentielle, là, on est sûr que les frères musulmans ne peuvent présenter personne. Ils ont dit, d'ailleurs, ils savent bien qu'on ne peut pas présenter un candidat qui soit élu. Alors là, ça sera un jeu plus compliqué. Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un capable de se faire élire et, avant même de se faire élire, de constituer un parti présidentiel? C'est toute la question. Et donc c'est vraiment à l'automne et à la fin de l'année qu'on pourra voir un peu où on en est.
Je crois qu'il y avait une... Oui, allez-y. Il faudrait que vous veniez au micro.
Oui, on demande si le microphone peut être déplacé. Est-ce que c'est possible, s'il vous plaît? Il y a un peu de fil, mais pas beaucoup de fil. Alors, est-ce que vous pouvez faire 3 pas vers le micro, je ne sais pas, où on approche un peu le micro de vous. Pardon. Allez-y. Oui, on va répéter.
Pensez-vous que, en vue de la réconciliation, que les écrivains ont un rôle à jouer? Et dans ce sens-là, je voudrais savoir si vous avez des contacts avec d'autres écrivains égyptiens musulmans.
Oui, alors la question c'est de savoir si les écrivains ont un rôle à jouer. Est-ce qu'on voit un rôle pour les écrivains et accessoirement est-ce que mes livres sont traduits en arabe? Alors mes livres certains sont traduits et d'autres sont en voie de traduction. Il y en a un qui a été traduit il y a 2-3 semaines, Mazag dont je parlais sort en ce moment. Enfin bon, j'ai bon. Pour ce qui est des écrivains, les écrivains ont été en avance d'une certaine façon sur ce mouvement, parce que si vous prenez la littérature égyptienne depuis quelques années, c'est une littérature qui compte des livres très audacieux et que le pouvoir a laissé faire en se disant personne ne lit des romans en Égypte. C'est pas très grave. On contrôle d'autres moyens, mais pas les romans. Et alors, vous avez eu des romans comme ça, mais c'est déjà assez ancien. Si vous prenez les romans, je vais parler uniquement des auteurs qui sont traduits en français. Mais je commence par le plus grand d'entre eux, celui qui est le plus connu, Naguib Mahfouz. J'ai lu récemment un roman de Naguib Mahfouz qui venait d'être traduit en français, extrêmement intéressant sur des jeunes gens du temps de Nasser, emprisonnés, torturés.
Karnak.
C'est Karnak Café, hein, il s'appelle comme ça, Karnak. Vous savez tout, vous, à ma gauche, hein, c'est formidable, elle est formidable. Et c'est un roman extrêmement audacieux et très fort. Mais vous avez d'autres écrivains plus jeunes, vous avez Sonal Ibrahim, qui a écrit des choses très fortes pour dénoncer un système policier, un régime policier. Vous avez Gamal El-Rithani qui, à travers un filtre historique, a écrit aussi des choses, une dénonciation indirecte. Vous avez Ala El-Aswani avec son immeuble Yacoubian. Ala El-Aswani qui a joué un rôle important dans ces événements. Vous avez, ils sont comme ça une petite dizaine qu'on peut citer, qui ont fait des choses très audacieuses. Et les écrivains, il y a un d'eux qui m'a dit, mais finalement, dans ce mouvement, on n'a eu aucun mal, nous, Union des écrivains, à nous rallier à ce mouvement, parce que on écoutait sur la place ce que nous écrivions depuis des années, finalement. Les écrivains ont été beaucoup moins divisés que les acteurs de cinéma, par exemple, ou que les chanteurs. Ou que ils ont été assez, ça s'est fait assez facilement, si vous voulez, ou que les journalistes, ou que donc les écrivains ont joué un rôle, et même dans un petit livre comme celui de Khaled El-Khamisi, ce Taxi, on voyait déjà émerger cette révolte, cet étouffement, ce Donc oui, les écrivains, si vous posez une bonne question, ils ont un rôle à jouer, c'est sûr. Et les écrivains, finalement, le pouvoir avait essayé ces dernières années d'enrôler les écrivains dans sa lutte contre l'obscurantisme religieux. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, et les écrivains n'ont pas apprécié, je dis les écrivains, il faut jamais généraliser, mais enfin disons, des écrivains, les principaux, le fils Moubarak ne leur a pas plu. C'est pourtant un garçon moderne, un garçon qui n'a pas que des défauts, hein, parce qu'on a diabolisé beaucoup de gens dans cette affaire, mais il n'a pas que des défauts. Mais c'est un garçon qui s'intéresse plus aux hommes d'affaires qu'aux écrivains. Ils ont bien senti qu'ils n'avaient absolument pas besoin d'eux et que c'était pas du tout son... Et ils étaient assez contre Gamal Moubarak. Voilà pour les écrivains.
Il y avait une dernière question, je pense, ici.
Je voudrais d'abord raconter une anecdote qui m'est arrivée et ensuite poser une question. Alors, l'anecdote, elle rejoint un peu « Je suis japonais ». Alors bien sûr, je suis japonais, c'est le père Ayrout, le André dans tes romans. Non, c'est pas le père Ayrout.
Non, c'est quelqu'un d'autre.
Ah d'accord, je pensais que c'était le jésuite Ayrout, d'accord. Alors, moi je suis né en Égypte, de père palestinien, j'ai jamais eu un passeport égyptien, et j'ai eu un laissez-passer. Et il y a quelques années, j'étais en Égypte, et je descends, je vais à Alexandrie, il n'y a pas de place au Cécile, je vais au Windsor. Et bien sûr, dans les hôtels, il y a deux prix, le prix égyptien et le prix étranger. Et moi, je sais que pour obtenir quelque chose en Égypte, il faut faire rire l'interlocuteur. Et si tu l'as fait rire, c'est fini, tu obtiens tout, tu peux lui demander la lune. Et il me dit, est-ce que tu es égyptien? Je lui dis oui. Il me dit, tu as un papier pour le prouver? Je lui dis oui, bien sûr. Et je sors mon passeport canadien, je le lui donne. Et il me dit, mais c'est un passeport canadien? Je lui dis oui, mais tu n'es pas analphabète, tu sais lire, n'est-ce pas? Il me dit oui. Je lui dis, mais regarde, où est-ce que je suis né? Alors il regarde, il me dit, bon, ok, oui. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux que je sois, soudanais? Et là, il a rigolé, il m'a dit, ok, je te fais le prix égyptien, mais la prochaine fois, apporte un papier plus authentique que ça. Alors, ma question, c'est un peu une question qui a été posée hier au souper conférence et qui, que je trouvais intéressante. Quel rôle est-ce qu'on peut, nous, avoir ici, de loin? C'est comment est-ce qu'on peut aider ce mouvement à ne pas basculer dans ce qu'on ne voudrait pas, dans ce qu'on voudrait pas voir l'Égypte basculer?
C'est en effet très important. Je pense que d'ailleurs ce mouvement n'aurait pas pu avoir lieu s'il n'avait pas été suivi dans le monde entier. Les médias, on a assisté à une révolution en direct, comme très peu de révolutions précédemment, finalement. On a assisté avec des caméras en direct, et je ne parle pas d'Internet, avec tout ce qui a été diffusé comme vidéo, comme texte sur Internet, le monde entier a pu suivre une révolution en direct. Et ça a été déjà pour les Égyptiens qui se rebellaient, ça a été quelque chose de considérable. Je pense que, et même quand le pouvoir a essayé de bloquer Internet, quand il a essayé d'interdire ou d'empêcher certaines chaînes de télévision, qu'il a essayé de gêner le travail de journalistes étrangers, ça n'a pas marché, parce que ça a été immédiatement dénoncé. Donc, et c'est là qu'on voit l'importance, finalement, de l'étranger dans les affaires égyptiennes, dans le bon sens du terme. C'est pas des ingérences, ça. Ça, c'est pas des ingérences. C'est un intérêt, c'est une importance qu'on attache, parce que tout le monde a saisi instinctivement que si l'Égypte basculait dans la démocratie, beaucoup d'autres pays allaient suivre. De la même façon, d'ailleurs, que si elle bascule dans l'extrémisme, etc., beaucoup de pays de la région vont suivre. Il ne faut pas se faire d'illusions. Donc, je pense que le soutien qu'on peut apporter, il est d'abord dans cette attention de ne pas tolérer certaines choses, de les dénoncer quand elles se produisent. Il y a aussi un soutien évidemment économique, il y a un soutien touristique. Le tourisme cette année a déjà baissé, d'après le ministre du tourisme estime qu'on va baisser d'un quart cette année, mais à mon avis c'est optimiste, parce que je suis pas sûr que les touristes vont revenir si vite en Égypte. Moi j'étais il y a 2 semaines, il y avait vraiment très peu de touristes. Bon, mais il faut aller en Égypte, et pas seulement pour faire du tourisme révolutionnaire, c'est-à-dire aller sur la place Tahrir où il n'y a rien à voir. C'est pas ça la question. Il faut. Moi, je pense d'ailleurs que le tourisme, il y a des gens qui pensent à ça et qui le font déjà. Il y a un tourisme associé au développement, un tourisme plus intelligent que simplement aller sur place et visiter des temples. Il va falloir inventer des formes de tourisme liées à la fois au développement, à s'intéresser aux Égyptiens d'aujourd'hui et pas seulement à ceux d'il y a 4000 ans qui sont très respectables. Donc, je pense que le tourisme, c'est important d'aller dans ce pays. Les médias, la dénonciation des choses qui pourraient se produire insupportables. Il faut soutenir les femmes de ce pays. Il faut soutenir les femmes qui cherchent à se libérer d'une oppression. Il faut le faire sans complexe. Il faut arrêter de s'inventer des raisons stupides de ne pas défendre l'égalité des sexes. Il faut défendre les femmes de ce pays qui ont joué un rôle dans ces événements et qui aujourd'hui sont déjà mises à l'écart. Et quand je dis les femmes, c'est pas seulement en Égypte, c'est les femmes de Tunisie, les femmes d'Algérie, les femmes du Maroc sont très courageuses. Il faut les défendre. Il faut avoir, quand on a des valeurs, quand on croit à l'égalité des sexes, il faut l'affirmer, il faut le démontrer. Etc. Il y a une aide économique évidemment à apporter à tous ces pays. Et à l'Égypte en particulier, une aide gouvernementale, mais il y a d'autres formes d'aide. Il y a une aide médicale. Hier soir, Claude Hazam faisait allusion à ce magnifique travail qui est fait par la Fondation Sainte-Justine à Assouan pour soigner des enfants. Il y a mille façons d'aider ces pays, d'être attentif, d'aider l'Égypte, d'être solidaire, d'aider les musulmans d'Égypte qui veulent un islam intelligent, un islam tolérant, un islam. Il faut les aider. C'est pas facile pour eux souvent de s'exprimer. Faut les aider, faut relayer ce qu'ils disent. Je sais pas, il y aurait plein de choses à dire, plein de choses. Mais je pense que les Égyptiens ont. C'est pas un hasard si pendant tous ces événements vous aviez des panneaux dans toutes les langues. Il y avait même des panneaux en hébreu, en chinois, en. C'était aussi parce que c'est le monde entier qui était là et les Égyptiens le sentent. Et quand je dis les gens qui étaient sur la place, moi je ne fais pas du manichéisme, il n'y a pas les bons qui étaient sur la place et tous les corrompus qui étaient en face. Je crois qu'il faut aussi arrêter de... Il faut prendre l'Égypte dans sa complexité. Il n'y avait pas d'un côté le peuple et de l'autre le régime. Hein, on a eu tendance à faire ça aussi. C'est beaucoup plus subtil que ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et ce sont deux notions très relatives, le peuple et le régime. Il faut faire la part des choses aussi. Il faut, voilà. Mais ce serait trop long si on entrait dans tout ça. Hein.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, monsieur?
Alors, c'est moins une question qu'un commentaire. Si vous permettez, je voudrais exprimer mes remerciements à votre présentatrice qui a su vous présenter sans accaparer la parole, ce qui n'est pas toujours le cas.
Merci. Merci.
Et maintenant, c'est le lecteur du Monde qui vous dit qu'il est un peu orphelin de votre billet. Alors, je dis, c'est le lecteur du Monde qui dit qu'il est un peu orphelin de votre billet quotidien. Vous nous avez laissé tomber en plan le 28 le 28 février. Bon, tout le monde a le droit à la retraite, mais c'est un peu dommage. Voilà. Alors, je sais pas ce que vous allez faire pour compléter ça ou pour remédier à cela, mais faites quelque chose. Merci.
Merci.
Merci. Il y a une fin à tout. D'ailleurs, tout le monde ne lit pas Le Monde. Mais bon, je faisais un billet quotidien que j'ai arrêté, effectivement. Mais ça va me permettre de faire plus de livres, si ça peut compenser un peu. La preuve, c'est que j'en fais deux, là, vous voyez. Bon. Oui, merci, en tout cas, de m'avoir lu. Et ça m'a fait... En fait, ça m'a beaucoup plu de faire un billet quotidien, où j'étais très libre d'exprimer ce que je voulais en quelques lignes. Et de jouer avec la langue française finalement, parce que j'aime la langue française, j'aime les mots, et ça me donnait cette occasion de jouer avec les mots. C'est un exercice compliqué mais très stimulant qui m'a fait beaucoup de bien personnellement. Merci de m'avoir lu en tout cas, et merci à tout le monde de lire mes livres aussi. Merci. Et...
Je pense qu'il y avait une question.
Comment ? Combien de billets ça fait un roman ? Alors, un billet, ça faisait dans Le Monde 1190 signes ou caractères, espace compris. Voilà. Et un livre, le livre que je fais sur le pharaon renversé, fait 330 000 signes. Voilà à peu près la différence. Combien? Ben, j'ai pas de calculette, là. Moi, je peux pas.
C'est juste, j'étais en train de ranger des tiroirs et je trouvais un billet de vous. Je sais pas si c'est quelle page du premier.
Allez au micro.
C'est sur le Liban. Est-ce que vous aimeriez le lire? Je l'ai amené avec moi.
Alors, c'est un, merci, c'est un billet qui s'appelle Liban. Ah, c'est ce billet-là. Ah, c'est ça. C'est un billet, c'est intéressant. C'est un billet au second degré, évidemment. Les lecteurs du Monde qui me lisent savent que j'écris au second degré. Mais seulement maintenant avec Internet, quand on écrit dans un journal, c'est diffusé immédiatement ailleurs. Et des gens qui n'ont pas l'habitude de vous lire tombent dessus et sont choqués en disant « Comment Robert Solé a pu écrire ça sur le Liban ?» Alors c'est intéressant, je vais le lire, alors puisqu'il faut le lire. Je ne l'ai pas relu depuis longtemps, ça date de je ne sais plus quand, 2006. Ça date de 2006 ce billet. Il est court, hein, c'est 1190 signes, donc ça ne va pas être long. Franchement, ne trouvez-vous pas disproportionné tout ce tintamarre à propos du Liban? Voici un pays minuscule qui n'a aucune ambition nucléaire et même pas un litre de pétrole. Rien ne le contraignait à être la première démocratie du monde arabe. Rien ne l'obligeait à accueillir les réfugiés palestiniens que ses voisins rejetaient. De quel droit refuserait-il qu'Israël, l'Iran et quelques autres l'adoptent comme champ de bataille? Et pourquoi tant d'ingratitude à l'égard de son grand frère syrien qui voulait seulement l'occuper pour le protéger contre lui-même et mettre la main sur son économie? Que des chrétiens et des musulmans de 17 communautés différentes aient su y partager le pouvoir pendant des décennies ne nous intéresse pas. D'ailleurs, les chrétiens finiront par quitter cette région à laquelle ils n'appartiennent que depuis 20 siècles. Accessoirement, que nous importe si beaucoup de Libanais chérissent la langue et la culture française? N'est-ce pas un peu ringard à l'heure de la mondialisation? Oui, vraiment, il serait temps de mettre une croix sur le Liban. Alors ça, merci, ça m'a valu des réactions d'Australie, du Brésil, de je ne sais où, en disant comment peut-on écrire ça et comment lui, il écrit des choses aussi horribles, etc. Bon, c'était au second degré.
Alors, merci à tous d'avoir été là. Je vais simplement rappeler rapidement, je vais vous faire un peu de pub, je vais rappeler les ouvrages qui sont à paraître. La vie éternelle de Ramsès II, je le dis à l'égyptienne. Ça, c'est aux éditions du Seuil, si je me souviens bien. Et il y a aussi Le Pharaon renversé, les 18 jours qui ont changé l'Égypte. Et ça, c'était aux arènes, hein, c'est ça? Et il y a évidemment Une soirée au Caire aux éditions du Seuil dont on parlait ce soir. Si vous voulez réécouter cette causerie, elle va être sur internet, sur Radio Spirale. Alors je sais pas c'est quoi le site Rina, mais par contre si vous cherchez Radio Spirale, ça sort rapidement. Et puis si vous voulez réécouter Robert Solé, je vais en profiter pour vous dire que j'ai une entrevue avec lui qui va être diffusée sur les ondes de CIBL Radio Montréal. C'est l'émission que j'anime, l'émission hebdomadaire littéraire qui s'appelle Rencontre du troisième titre, qui est tous les mardis à 18h, et vous pouvez l'écouter sur le 101.5 FM ou sinon sur internet aussi.
Et moi je veux vous remercier de la qualité de votre animation et de votre lecture et de tout ce que vous avez dit. Merci beaucoup.
Merci, c'est un plaisir.